La question de savoir si je restais dîner ne s'est pas posée. Je veux dire par là qu'elle n'a pas été posée. Sur une nappe blanche qu'Alice venait de lisser en se penchant dans ma direction. Ah, le bruit, le toucher de sa paume sur ce drap de lin, et l'entrebâillement de sa chemise, et le glacis soyeux de son soutien-gorge, et... Oh, mon cœur, comme il s'émiettait. Sur la nappe, disais-je, Isaac dressait trois couverts tout en continuant de me raconter le Brasilia d'Oscar Niemeyer tel qu'il l'avait découvert en 1976. Il se souvenait de la cathédrale, de sa taille, de son acoustique et de l'absence de Dieu, trop intimidé et perdu là-dedans. Il cherchait le pain, le tranchait, me décrivait la Cour suprême et les ministères en demandant s'il devait ajouter des assiettes à soupe, se désolait que je ne fusse jamais entré place du colonel Fabien, proposait de m'y guider un jour et sortait pour moi une serviette propre. À défaut d'être l'amant de sa femme, j'aurais pu être son fils. « Vous êtes fatigué, » s'interrompit-il soudain. « Je vous casse les pieds avec toutes mes histoires, n'est-ce pas ?»« Pas du tout, pas du tout, bien au contraire. » Si je frottais mes yeux ainsi, ce n'était pas parce que j'avais sommeil, c'était pour les essuyer en douce. Raté. Et plus je frottais, plus je les noyais. L'imbécile. Je plaisantais. Je disais que c'était le vin. Que j'avais le vin marin, salé. La faute, et c'est éprouvé, aux émanations de granit qui vous rongeaient l'âme, aux calvaires, aux ex-voto, aux grandes marées, la fameuse saudade des Côtes d'Armor. Bien sûr, je ne trompais personne. C'était juste que j'étais entièrement décongelé à l'heure qu'il était, et que, mon élasticité revenue, je rendais un peu d'eau, voilà tout. Allez, allez, circulez. Ça arrive à tout le monde de se faire niquer par son âme, non? Cette petite bulle, là. Cette salope qui remonte sans crier gare pour te rappeler que ta vie ne t'arrive pas à la cheville et que tu es perdu dans tes rêves absurdes et beaucoup trop grands pour toi. Les gens à qui ça n'arrive pas, c'est qu'ils ont renoncé. Ou mieux, même. Tellement mieux et tellement plus confortable. Qu'ils n'ont jamais éprouvé le besoin de se mesurer à... Je ne sais pas. De se mesurer tout court. De se toiser en face. Comme je les enviais, bordel. Et plus j'avançais, plus j'avais le sentiment qu'ils, les gens, étaient presque tous comme ça et que c'était moi qui déconnais. Que c'était moi qui m'écoutais pisser sur les feuilles mortes. Pourtant, ce n'est pas mon genre, j'en suis sûr. Je n'aime pas me plaindre. Je n'étais pas du tout comme ça quand j'étais gamin. Le truc, c'est que je ne sais pas où j'en suis dans ma vie. Et je ne dis pas dans la vie. Je dis dans ma vie. Mon âge. Ma jeunesse inutile. Mon diplôme qui n'impressionne personne. Mon taf à la con, les 60 points de Mélanie, ces faux bisous qui clignotent dans le vide, mes parents que je n'osais plus appeler, mes parents qui n'osaient plus m'appeler, mes parents qui avaient toujours été si présents et qui n'avaient plus que cela à m'offrir pour le moment, leur discrétion. C'est horrible. Diversion. Un jour que je l'accompagnais sur la tombe de son fils, le frère aîné de ma mère, le dernier marin pêcheur de la famille, ma mémé Cinquet m'a expliqué que l'on reconnaissait le bonheur au bruit qu'il faisait en partant. Je devais avoir dans les 10-11 ans et je venais de me faire chourer un démanieur et mon couteau. Je l'ai reçu 5/5. Eh bien, l'amour, c'est le contraire. L'amour, on le reconnaît au souk qu'il fout en débarquant. Moi, par exemple, il avait suffi qu'un homme gentil, drôle et cultivé, un voisin de palier que je connaissais à peine, posa devant moi un verre, une assiette, une fourchette et un couteau pour que je me fissure de la tête aux pieds. C'était comme si ce type avait enfoncé un coin dans la plus secrète de mes brèches et me tournait tranquillement autour, une énorme masse à la main. L'amour. Soudain, je comprenais Alice. Je comprenais pourquoi elle avait tellement paniqué ce premier jour à la Samaritaine, lorsqu'elle avait levé la tête et qu'elle avait cru l'avoir perdue à jamais. Je comprenais pourquoi elle s'était mise à courir comme une folle et l'avait harponnée dans la rue. Cette violence avec laquelle elle avait attrapé son bras, ce n'était pas pour le forcer à se retourner, c'était parce qu'elle se retenait à lui. Et c'était ça qui me faisait chialer. C'était ce geste-là. Terre ferme.
Alice, mon petit, ce garçon meurt de faim.
Les filles ont école demain. Ce serait bien de les coucher d'abord, grimaça-t-elle. Au loin alternaient des moments de calme, période d'enregistrement, et de pure folie. Cache-cache à la fête du slip et autres slogans débiles dans l'écho des savanes. « Aurait eu, école », rectifia-t-elle. « Bon, eh bien, à table alors. J'ai là un velouté de potiron au marron qui devrait nous remettre ce joli breton d'aplomb. Poil au téton !»
Un ange est passé, effondré.
Oh, je vous en prie tous les deux, je vous en prie. Ne me regardez pas comme ça. Moi aussi, j'ai le droit de régresser, non ?
Isaac m'a indiqué le chemin et je suis allé me laver les mains. À part la chambre des enfants, rose et animée au fond du couloir, le reste de leur appartement, du moins ce que je pouvais en apercevoir, était vide. Pas de tapis, pas de meubles, pas de lampes, pas de rideaux, aucun objet et des murs nus. Drôle d'impression. Comme si la vie sur cette planète s'était tout entière repliée dans la cuisine.
Vous allez déménager ? Demandai-je en dépliant ma serviette.
Non, non, c'était juste pour le repos de l'œil. Ils avaient une vieille bergerie dans le sud où ils s'échappaient le plus souvent possible et qui était bourrée jusqu'à la gueule de tout un bric-à-brac sentimental, mais ici, sorti de la cuisine, rien ne devait rappeler son métier à Isaac.
Une chambre pour les filles, une cuisine pour la famille, un canapé pour la musique et un lit pour l'amour,
fanfaronna-t-il.
Alice précisa que ça lui allait, qu'elle comprenait, qu'elle appréciait, et qu'elle avait un lit merveilleux, immense, un transatlantique. Un transatlantique. Cette femme avait le don de toujours tout érotiser sans avoir l'air d'y toucher. Nerveusement, c'était éreintant. Au sens étymologique. Ça vous flinguait les reins. L'éclat des bougies, le velouté du velouté, la mie du pain, le filet mignon, le riz sauvage, le chutney maison, le vin, ce vin qui vous chambrait peu à peu, qui vous insufflait tant de vie en vous délestant de tant de vous-même, qui vous scintillographiait l'âme, les éclats de voix des gamines, de plus en plus espacés et de plus en plus discrets. D'après leur mère, cela n'avait rien de fortuit. Elles se faisaient oublier parce qu'elles croyaient qu'on les avait oubliées, justement. Serait-ce possible ? Les filles sont-elles déjà si rusées, si jeunes ? Non. Allons. Encore quelques illusions, monsieur le bourreau. Le flot de notre conversation, nos rires, nos provocations, nos débats, nos désaccords et nos ralliements. Je savais déjà que je ne me souviendrais de rien. J'étais déjà bien trop gai, mais que je n'oublierais jamais rien non plus. Que cette soirée me tiendrait lieu de curseur, de Jésus-Christ. Qu'il y aurait désormais un avant et un après. Et qu'Alice et Isaac, et c'était encore très confus, mais c'était bien là et c'était ma seule certitude dans les brumes de l'alcool et du bien-être, étaient devenus ma mesure de référence. Et déjà j'avais peur. Déjà je pressentais que cette gueule de bois-là serait insurmontable. Dans le désordre, en passant du coq à l'âne et de l'âne au dessert, nous avons parlé de son métier à elle, professeur de danse. C'était donc cela. Quel joli corps elle devait avoir. De Michael Jackson, de Caroline Carlson, de Pina Bausch, de Dominique Merci, de la place du Châtelet, de Broadway, de Suresnes et de Stanley Donen. Je lui demandais de me passer l'eau, le pain, le poivre, le sel, le beurre et que sais-je encore pour le seul plaisir de voir son bras se délier. De sa maman, pianiste dans un conservatoire de danse classique. De sa maman qui avait passé le plus clair de sa vie à voir s'envoler des petits rats et qui était morte l'année passée en se désolant de jouer si maladroitement sa dernière fugue. Du cancer, de la maladie, de l'Institut Gustave Roussy, de la valeur immense de ses médecins et de toutes ses infirmières dont personne ne parlait jamais, de ses points de vie que le chagrin vous raflait d'un coup, des verts paradis de l'enfance qui n'étaient jamais si verts que ça, du paradis tout court, de Dieu, de ses mystères et ses contradictions, du film que j'aurais dû voir ce soir, de cette scène inoubliable où des parents se résolvent à perdre leur fils de vue pour le libérer du poids d'être leur fils, de mes parents, de la voiture ancienne que mon père retapait avec amour et par intermittence depuis plus de 40 ans et qu'il avait promis de terminer pour le mariage de ma sœur qui avait divorcé depuis, et de ma nièce qui du coup avait repris sur ses frêles épaules tatouées le grand espoir de papy et de sa Fiat Balia enrubannée de blanc, du quartier, des commerçants, de la boulangère qui nous parlait si mal et qui, lorsqu'elle se retournait, laissait souvent deviner des mains de farine sur ses bonnes grosses miches, de l'école, de la musique que les enfants ne rencontraient jamais à l'âge où ils en avaient le plus besoin et où il aurait été si facile pour eux de l'apprendre en s'amusant, de ce gâchis, des révolutions qu'il faudrait avoir le courage de mener. Alice me racontait qu'elle et l'un de ses amis, percussionnistes, se relayaient dans des crèches et des écoles maternelles une fois par semaine pour tendre des instruments à des tout-petits, un triangle, un petit guiro, des maracas, et ajoutait qu'il n'y avait rien de plus rassurant au monde que de voir les cils d'un bébé se figer quand un bâton de pluie lui dégoulinait dans l'oreille. De la théorie d'Isaac, selon laquelle la vie,
et il fallait s'en souvenir, ne tenait qu'à une chiure de mouche. Il l'avait compris très jeune, à l'âge de raison, disons, alors qu'on le sommait d'épeler son patronyme et qu'autour de lui, toujours et où qu'il fût, la lumière changeait selon qu'il mettait un point ou deux sur son « i ». Du cynisme, du recul, de la force enfin, qu'une telle révélation lui avait chevillé au corps. Un point ou deux. À hauteur d'enfant, c'était vertigineux. Des ballets russes, de Stravinsky, de Diaghilev, de leur chat qui venait de chez leurs voisins du sud et qui « miaou » miaulait avec la sein, de la différence entre les Chamonix de notre enfance et ceux d'aujourd'hui. Et pour les figolus, c'était pareil. Et alors, était-ce nous qui avions changé ou leur recette? De mansard, du prince de ligne, d'ébénisterie, de ferronnerie d'art, des livres des éditions Vial, du Bauhaus, du petit cirque de Calder et de la signalétique du métro de Berlin. Entre autres. Le reste s'est dilué. À un moment, Alice nous a quittés pour coucher ses filles et je n'ai pas pu m'empêcher de demander à mon hôte si c'était vrai. Si leur histoire de tout à l'heure était vraie. La façon dont ils s'étaient rencontrés et tout ça. Pardon ? Non mais, repris-je en bafouillant, vous lui avez vraiment parlé d'un bébé ce soir-là ? Devant votre porte ? Alors que vous la connaissiez à peine ? Quel beau sourire il m'adressa alors. Ses yeux disparurent et tous les poils de sa barbe se tortillèrent de plaisir. Il les caressa pour les assagir, se pencha en avant et me confia tout bas. Mais Yann, mon jeune ami, bien sûr que je la connaissais. Les gens qu'on aime, on ne les rencontre pas, voyons. On les reconnaît. Vous ignoriez cela ? Oui. Eh bien, je vous l'apprends. Son visage s'assombrit et il ajouta, en observant le fond de son verre, vous savez, quand j'ai rencontré Alice, j'étais un grand malade. J'avais vraiment 45 ans, j'étais vraiment vieux garçon et je vivais réellement chez mes parents. Enfin, avec ma mère. Comment vous dire ? Vous êtes joueur ? Pardon ? Je ne vous parle pas du nain jaune ou de la crapette, je vous parle de souffrance, d'addiction. Du jeu, avec des gains et une majuscule. Casino, poker, course de chevaux. Non. Alors je doute fort que vous puissiez comprendre. Il posa son verre sur la table et continua, sans plus jamais croiser mon regard. J'étais un chasseur, ou un chien plutôt. Oui, c'est ça, un chien de chasse. Toujours inquiet, toujours sur le qui-vive, toujours à gémir, à gratter, à fureter dans les coins. Obsédé par l'idée de débusquer, de traquer, de rapporter. Vous n'imaginez pas qui j'étais, Yann, ou ce que j'étais, devrais-je dire. Non, vous n'imaginez pas. Je pouvais faire des milliers de kilomètres d'une traite et s'endormir. Je pouvais sauter des repas et me retenir de pisser pendant des journées entières. Je pouvais traverser l'Europe sur une intuition, sur une idée de poinçon, de signature, ou la vague promesse, peut-être, peut-être, d'une cambrure comme ci ou d'une manière de peindre les nuages comme ça. La certitude qu'il y avait par là-bas, en Pologne, à Vierzon, à Anvers ou je ne sais où, un vernis à gratter, un faux plafond à faire sauter, un drap à soulever. Des milliers et des milliers de kilomètres pour me rendre compte au premier coup d'œil que je m'étais fourvoyé et que, vite, il fallait repartir. Car j'avais déjà perdu bien trop de temps et risquais de me faire doubler sur une autre affaire si je restais là une seule seconde de plus. Silence. J'en perdais le sommeil, la décence, la conscience des vivants. On dit que les chasseurs ont le goût du sang en bouche. Moi, quand je broyais mes molaires, ce que je mâchais, c'était la poussière des salles des ventes. Les odeurs de cire, de vernis, de tapisserie, de vieux crins. Et celles des transpirations, des peurs, de ces petits pets silencieux qui annoncent des chiasses épouvantables, des haleines pestilentielles de tous ces vieux fêlés qui se cabrent pour une rousseur, mais qui laissaient pourrir en dedans leur propre chicot. Oui, j'avais en bouche l'odeur du diesel au cul des camions, celle des billets de banque vite comptés et vite empochés, des maisons en deuil, des familles en guerre, des visites dans des hospices au diable ou dans des châteaux aux abois, déchus, tristes et bientôt dépecés, de la mort qui planait au-dessus de certains hôtels particuliers, de certains amateurs que je connaissais ou de certains collectionneurs qui, je le savais, me connaissaient, les cris du banditor, le brumat du marteau du commissaire-priseur, les adjudications, les annonces de décès dans le carnet du jour, les confidences qui tombaient parfois avec les cendres d'un cigare, la pièce au Savoyard, les heures passées à table avec de vieux notaires de province, la lecture de la Gazette en conduisant pour gagner du temps, les bras de fer avec les transporteurs, la mafia des experts, les avions, les foires, les biennales. Je ne sais pas si vous avez lu des histoires de trappeurs, de braconniers ou de chasseurs Sioux quand vous étiez enfant, Yann. Tous ces récits hallucinants de chasse, de traque, de safari. Aqab et son cachalot, Houston et son éléphant, Eichmann et ses juifs. Vous avez lu tout ça?
Non.
Tous. Tous de grands malades.
Comme moi. Il souriait et me regardait de nouveau.